Est-ce qu'on est en direct?
Ben oui, c'est un podcast de tennis, Nico, et non un podcast Excellent. De basket.
Excellent, je pensais qu'on testait le son.
Non, on ne testait pas le son.
Les débuts de journée à l'Omnium Banque Nationale, c'est pour ça qu'on appelle ça café à l'Omnium Banque Nationale, le café qui est en train de nous réveiller, donc on s'améliore de seconde en seconde. Salut tout le monde.
Nico, comment ça va? Tu es le seul qui n'est pas dans le studio parce que tu préfères être loin de nous, j'imagine?
Parce que je veux tellement être près de nos chers collègues Nicolas et Abraham. Il faut les guider quand même. Ils sont excellents, mais il faut quand même les guider un petit peu. Alors, je me fais une joie de les prendre sous mon aile pour ces cafés. On est trois pas buveux de café, alors on vous laisse entre vous autres vous caféiner entre vous.
Entre buveux de café. Bienvenue à l'Omnium Banque Nationale en direct du studio Mazda des Sources du groupe Delary. Messieurs, la pluie a été la grande gagnante hier, mais avant qu'on parle de ce qui s'est passé hier, bombe, messieurs, ce matin dans le Vogue, Serena Williams annonce sa retraite. On va en parler un petit peu avant qu'on rentre dans l'Omnium Banque Nationale. Richard, j'allais t'appeler Richard, parce qu'on va voir Richard Legendre un peu plus tard dans l'émission. Hugues, tu penses quoi de cette annonce-là? Est-ce que c'est surprenant?
Non, on s'y attendait tous. C'était une question de temps. On s'attendait, par contre, à ce que ça se passe dans le cadre du US Open. D'une part, je tiens à dire encore, on est extrêmement chanceux de voir Serena et Venus à Toronto cette année. Profitez-en. Serena a gagné son premier match en 2-7 hier de belle façon. Elle le dit elle-même après en conférence de presse. Finalement, j'ai gagné un match. Ouais. Donc, je me sens bien. Mais je suis un peu déçu du timing. Je pense qu'elle va faire un takeover du reste de l'été tennis avec cette annonce-là. Et j'aurais préféré. Donc, elle va enlever un peu du spotlight sur ce qui se passe en général sur le circuit féminin et masculin aussi. Je parle de tout le monde du tennis. J'aurais préféré qu'elle attende au US Open pour l'annoncer. Mais non, ce n'est pas une surprise.
Nico, est-ce que c'est une surprise pour toi?
Non, absolument pas. Comme on se disait ce matin, ça fait à peu près un an ici au podcast qu'on en parle du fait qu'elle pourrait se retirer probablement là, à la fin du US Open. Donc, c'est pas une surprise tant que ça. Mais pour parler du timing, puis moi aussi, j'étais surpris. Mais en même temps, les gars, vous le savez, vous travaillez dans le monde. Je me demande pas ce coup peut Serena. Parce qu'avec cette exclusivité, avec cette entrevue, peut-être que les dirigeants, peut-être que les journalistes ont dit qu'il faut le sortir le plus vite possible. Je suis convaincu que Serena contrôle quand même son message, mais il y a peut-être un enjeu d'édition, de publication, parce que c'est évident que Serena, qui vient de gagner son premier match en un an, en tout cas, si c'est vraiment volontaire, c'est étrange. Sinon, tu sais, je ne penserais pas que Serena, en plein tournoi, après un match seulement, annonce sa retraite comme ça. Je pense que c'est vraiment Vogue qui a mené le bal pour cette annonce. Mais pour répondre à ta question initiale, Alex, non, ce n'est pas une surprise.
Oui.
C'est logique. En fait, ça s'inscrit dans l'ordre des choses. Serena, maintenant, après le US Open. Roger, peut-être dans quelques mois après Wimbledon, qui sait.
Je vais dire un truc plate, là, mais je me dois de le dire là, avec mes travers marketing et commerciaux. Je pense qu'il y a un gros chèque qui est venu avec cette annonce-là, avec Vogue.
Intéressant.
C'est une grosse exclusivité. Tous les médias auraient voulu l'avoir, les gars, c'est certain. Donc, je pense que c'est très bien coordonné entre Serena, son équipe de management, son agent et Vogue comme média choisi pour annoncer cette histoire-là, cette nouvelle-là et préparer la suite pour Serena. Donc, je pense que tout ça est très, très bien calculé. Et c'est pas nécessairement pour le bien du tennis, mais pour le bien de Serena. Et on peut comprendre ça sous un angle commercial.
Je vais te relancer rapidement là-dessus, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu es vraiment la meilleure personne pour en parler. Juste saluer Sam Ganji qui se joint à nous dans le live. Un régulier quand on fait des lives. On n'en fait pas souvent, mais quand on en fait, il est là.
Salut Sam.
Bienvenue à l'Omnium Banque Nationale. Tu dois triper tennis. Oui, pour la retraite, ce sera effectivement après le US Open.
Ouais.
Je veux revenir sur ce que tu viens de dire, parce que ça, c'est intéressant. On a peut-être donné un chèque à Serena, mais jusqu'à quel point elle a besoin d'un chèque? Je veux dire, c'est une des athlètes les mieux payées dans l'histoire. Je veux dire, quand même qu'on jase.
Écoute.
Mettons qu'ils y ont donné 50 000. Je ne sais pas, pour une révélation de même.
Non, non, c'est
plus que ça!
C'est beaucoup plus que ça. Écoute, Phil Mickelson, je vais prendre un exemple dans le golf. Il n'a pas besoin d'argent non plus. Là. Non. Lui qui passe du côté du livre, c'est un choix financier avant tout.
Un choix de 200 millions.
Exactement. On ne parle pas de 50 000, on parle de 200 millions, on s'entend. Mais tous les athlètes, même les multimillionnaires, les premiers au monde, Serena, elle a dominé son sport depuis 2 décennies. Ils vont quand même aller chercher ces entrées de revenus-là pour différentes raisons, mais oui, ça fait partie de l'équation, mais ça n'en a pas besoin. Garanti.
OK. Approx, là. Moi, j'ai dit 50 000, t'as dit plus. Mais on jase.
Yeah, là, je spécule, mais un porte-parole prestigieux comme Serena Williams qui annonce une nouvelle qui va résonner sur la planète entière, bien au-delà du sport du tennis. Ça va amener beaucoup de lectorat, beaucoup d'audience au Vogue durant les prochaines semaines parce qu'ils vont sûrement suivre son histoire jusqu'au US Open. Là c'est le début de la route vers la fin, là, je vais le dire comme ça. Fait que moi, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Là. Je n'avancerai pas un chiffre, mais c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, assurément.
Tu ne seras pas surpris de voir beaucoup de zéros. C'est là où tu vas.
C'est 6 chiffres, assurément.
Là. L'autre chose, messieurs, qui entre en considération, la question, puis je ne veux rien enlever à Serena Williams, mais... Pour les autres joueurs, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de un peu dommage? Parce que Nico, elle prend le contrôle du narratif.
Oui.
Ben oui, d'une certaine manière, mais c'est Serena. Peu importe quand est-ce qu'elle l'aurait fait, elle aurait eu le contrôle. Elle aurait eu toute l'attention. Ouais. Comme tantôt, on se disait, Ordon, les gars, ceux qui sont ravis en ce moment, ce sont les organisateurs du US Open. Parce que tous les privés sont performants hier. De ce qui est peut-être là ou évidemment l'une des plus grandes joueuses de l'histoire. C'est sûr que ça aurait été encore plus extraordinaire et beaucoup plus excitant si elle avait pu combattre ou être parmi les prétendantes pour atteindre le 24e Grand Chelem pour rejoindre Margaret Court, ce qui ne sera pas le cas, à moins d'une immense...
On ne pense pas à personne, non.
En tout cas, ça serait, dans le contexte, ce serait toute une histoire.
Immense surprise. Tu sais où?
T'imagines?
Oui, mais comme tu dis, le timing en plein tournoi de Toronto... C'est pas l'idéal, mais elle l'aurait fait de toute façon dans les prochaines semaines. Et les tournois se succèdent tellement rapidement que les chances que ce soit entre 2 tournois auraient été très minces. Mais c'est évident que l'attention d'aujourd'hui, au moins pour demain, je pense aussi, sera tournée vers Serena.
Je veux pas trop qu'on s'étende sur Serena Williams parce qu'on a quand même une grosse journée de tennis ici à faire à la même Banque nationale. Mais en même temps, je pose la question suivante. Est-ce que... Roger Federer aura annoncé sa retraite en plein milieu d'un tournoi.
Je vais répondre à ça. Je ne pense pas. Moi, je m'attends à ce que Roger fasse la même annonce dans les prochains mois, soit à la Lever Cup, où il est déjà engagé. En passant, il est actionnaire de la Lever Cup, ou à Bâle, chez lui, qui sera son dernier tournoi, vraisemblablement. Encore une fois, je m'avance un peu. Mais je ne crois pas qu'il va revenir sur le circuit à temps plein. Et je pense qu'il va attendre une de ces 2 fenêtres-là, mais qu'il ne va pas, comme Alex, tu l'as dit très justement, prendre le contrôle du narratif durant une période avant son annonce. Je ne crois pas qu'il va faire ça.
Nico, t'en penses quoi?
Ben, comme je le réitère, moi, je suis convaincu que Roger, son dernier tournoi sera celui de Wimbledon. Avec ou sans résultat, là, je pense que c'est à Wimbledon. Après Wimbledon, à vrai dire qu'il va annoncer sa retraite pour se retirer au All England Club, là où il a tout gagné, là où il a marqué l'histoire du sport. La seule différence entre Williams et Federer, je pense du moins la plus grande, c'est que Federer va l'annoncer de son propre chef, soit par conférence de presse ou sur ses réseaux sociaux. Je ne suis pas convaincu que ça va passer par un média. Je pense que le message entre Federer et les fans, qui a été si précieux pendant les 20 dernières années, il va rester intact jusqu'à la toute fin. À moins bon, qu'un Uniqlo, par exemple, qui lui a versé 300 millions, décide de faire une campagne autour de sa retraite et que ça sorte de cette manière. Mais je suis convaincu que la plus grande différence entre les deux, c'est que Federer va être le porteur de son message.
Intéressant, intéressant. Bon, messieurs, c'est sûr que c'est un gros sujet, mais on a quand même une grosse journée de tennis qui s'en vient et je veux qu'on revienne sur ce qu'on a vu hier.
À Montréal et à Toronto.
À Montréal et à Toronto, en effet. À Montréal, en tout cas, c'est la pluie qui a gagné la journée. Ouais. Ça, on s'entend là-dessus. Je veux votre analyse, messieurs, de Shapovalov contre Dominar. Parce que, je pense qu'on a un Shapovalov quand même bien en jambes. Hugues, c'est quoi ton analyse de cette première partie de match qu'on a vue hier?
La pluie, effectivement, a été la grande gagnante. Et je pense que Shapo devait être extrêmement déçu que le match soit arrêté à ce moment-là. parce qu'on sait qu'il carbure à cette énergie du central, de la foule à Montréal, qu'il adore et qui lui rend très bien, c'est réciproque. Il l'a d'ailleurs mentionné sur ses réseaux sociaux hier soir. Mais là, ça commençait à cliquer à la fin du deuxième set. Il était fébrile au début, c'était plus compliqué. Et là, il était dans une très bonne séquence en fin du deuxième set et j'avais confiance pour le tie-break. Et cette chimie-là, elle se bâtit. C'est dur d'arriver à froid et de mettre ça à on. Là. Il l'a bâti pendant un set et demi, presque deux sets. Et donc, je pense qu'il aurait aimé que le match se poursuive hier soir. Mais cela dit, je pense qu'il joue un excellent match. Quand on a regardé les stats quelques minutes avant l'arrêt à cause de la pluie, il y avait deux points de différence, on parle de points gagnants là, en faveur d'Alex de Minaur. Chapeau aux joueurs des joueurs les plus en forme du circuit en ce moment, comme on le sait. De Minaur a gagné à Atlanta, on l'a dit. Donc, c'est un excellent match de chapeau. J'espère juste qu'il pourra recréer la même confiance et la même dynamique quand il va revenir sur le terrain, mais ça ne sera pas évident.
Nico?
Il y a trois choses, moi, qui m'ont marqué hier dans ce match-là. D'une part, je ne me rappelle pas avoir vu... Le kit à Denis. Mais d'abord, je ne me rappelle pas avoir vu Chapeau servir aussi bien depuis au moins un an.
Il servait bien, oui.
Deuxième chose, l'amour indéfectible du public québécois pour Denis Chapovalov. Ça fait un an que sa carrière est en... d'anti, que ses résultats ne viennent pas, qu'il a perdu du rythme, qu'il n'est plus l'ombre de lui-même. Mais malgré tout, les fans de Montréal aiment Denis Chapovalov et ça s'est ressenti hier sur le central. Et troisièmement, il faut lancer des fleurs à Dominor qui est d'une régularité extraordinaire. Ah, oui. Il commet très peu d'erreurs. C'est un métronome. Ce gars-là, on va le revoir longtemps. Il va être dans le top 10 pendant longtemps. On n'en parle pas assez. C'est un gars qui est très low profile. C'est un gars qui attire pas l'attention, c'est pas le gars le plus flashy, le plus spectaculaire, mais ô combien régulier et efficace. Et c'est ce que j'ai retenu hier en voyant Dominor jouer contre Chapovalov.
Il faut rappeler que Dominor était finaliste du Next Gen contre Yannick Sinner en 2019. C'est tout un client. Là. Puis moi aussi, c'est pour ça que je dis que je suis plus inquiet pour le retour sur le terrain aujourd'hui. Parce que Dominor, justement, est très régulier, très constant. Lui, il peut revenir dans un groove en quelques coups de raquette. Alors que Denis est plus un artiste sur le terrain, un jeu un petit peu plus, hot and cold, comme je disais hier soir, sur la zone du 91-9. Donc, Dominor, c'est tout un client pour closer un match comme ça aujourd'hui.
Que pensez-vous de ce match-là? Ça s'est arrêté au prix d'égalité de la deuxième manche. 3-3. Alors qu'on avait un Chapovalov... Mais même depuis le début de la rencontre, je dirais assez confiant puis qui rivalisait très bien avec Dominor. Mais votre feeling, est-ce que Chapovalov va quand même le dos au mur? Est-ce qu'il va se sortir d'impasse et finir avec la victoire dans ce match-là? Hugues.
Mais c'est dommage parce que je pense que la pluie va désavantager Chapeau parce qu'il avait le momentum.
Oui.
Un autre point cependant que je vais ajouter, les gars, par rapport à ce duel-là, rappelez-vous dans la conférence de presse de Chapeau il y a deux jours, il avait dit, Dominor et moi, on se connaît très bien. On a joué contre dans les juniors. Ça fait longtemps qu'on joue dans les mêmes circuits. On a le même âge. Et ça a paru hier, très tôt dans le match, parce que la première manche a duré 1 minute, gros maximum. Les points étaient expéditifs. Les gars connaissaient les faiblesses de leur adversaire. Rapidement, on a exploité les failles de part et d'autre. Mais pour revenir à la question initiale, Alex, j'ai l'impression que Dominor, parce qu'il va mieux ces temps-ci, va réussir à aller chercher ce match-là. Situation de 3-3 au bris d'égalité. Je pense que Chapeau aurait pu revirer la situation de côté. Mais là, présentement, avec 24 heures, bon, un peu moins de repos, d'analyse, Dominor va revenir fort. Puis il ne voudra pas non plus s'éterniser à leur avantage Dominor, malheureusement.
Même chose. Oublions pas que Dominor a gagné le premier set. Donc, Denis a le dos dans les câbles en ce moment. Et tout va se jouer sur sa capacité, sur les 2-3 premiers points, à repartir la machine à fond. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, moi, je donne un avantage à Dominor pour closer le match aujourd'hui.
Et c'est ça qui est fascinant, les gars. Il ne reste pas un set. Il ne reste pas 3, 4, 5.
Il reste 10 minutes.
Oui, 3, 4 points. Il reste 4 points, là.
Exact.
Ça se peut qu'en 10 minutes, ce soit réglé. Ça se peut que ce soit expéditif. Fait qu'imaginez la préparation que ça demande. Parce que tu ne sais pas si tu vas jouer 10 minutes ou encore une heure et quart. Fait que les gars, présentement, j'aimerais vraiment être dans le vestiaire présentement puis entendre ce qui se dit entre les entraîneurs et les joueurs.
Ouais, ouais. Gros test pour Dennis et son nouveau coach, Peter Polinski, d'arriver sur le terrain avec la bonne recette pour gagner ses 2-3 premiers points, parce que ça va jouer sur 10-15 minutes, effectivement.
Messieurs, autre Canadien, voire Canadienne, qui était en action hier, Leila Annie Fernandez, on était curieux de voir qu'est-ce que ça donnerait dans son cas à elle, parce qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation. Mais j'avoue que j'ai parlé à Mike McIntyre hier, qui est à Toronto, avant le match, il m'avait dit... Je l'ai vu pratiquer, elle bouge bien, elle a l'air d'une joueuse de tennis sur le terrain. Leila s'était fait rassurante en conférence de presse en disant « brand new foot, j'ai un nouveau pied ». Alors, il y avait beaucoup d'éléments qui disaient « bon, mais peut-être que c'est rassurant ». Et eux, ouais. Elle nous a rassurés hier sur le terrain aussi.
Quel plaisir d'avoir gagné son match de premier tour. Moi, honnêtement, j'étais un peu inquiet. J'étais vraiment en mode « wait and see » là, pour Leila hier soir. Match accroché quand même contre Storm Sanders. Victoire en 3-7. Donc 6-4, 6-7, 6-3 au troisième. Elle a perdu le tie-break du deuxième assez rapidement. J'ai dit, oh, est-ce qu'elle va tenir un troisième set? Mais non, on a retrouvé cette Leila combative, hargneuse, précise au niveau de ses patterns. C'est vraiment le fun. Et là, je suis tout un coup ce matin. Tout est possible. Elle peut faire un excellent Omnium Banque National. Elle est peut-être repartie pour une belle série du côté du US Open. Belle, belle victoire d'entrée de jeu par Leila Fernandez, qui n'avait pas joué un match depuis Roland Garros, imaginez, depuis le mois de mai.
Et Hugues, tu sais, on est très dans les détails. Tout le monde est un petit peu malade mentaux là-dessus.
Oui.
Leila, je trouve qu'elle a pris du coffre. Oui. Elle a pris du muscle. Elle D'accord. est moins chétive.
Même son visage a changé.
Oui.
Elle est une femme maintenant. Là.
Exact. Mais je ne sais pas ultimement si ça peut l'avantager. Parce qu'on l'a connue. Elle, ce qui est plaisant, puis ce qui fait le succès de Leila, c'est qu'elle est furtive. Elle est rapide. Oui. Elle est à la fois puissante, mais agile. Fait que je ne sais pas à quel point ce changement corporel ou ce changement de condition physique peut l'aider ou la désavantager. J'ai hâte de voir, mais tu l'as dit, Leila, c'est une femme. Et c'est beau d'avoir allé.
Autre bonne nouvelle, messieurs, elle aurait dû affronter Trevisan au deuxième tour, mais ce ne sera pas le cas. Trevisan a perdu, on la connaît, elle a connu de bons moments un peu plus tôt cette année, elle. Mais elle affrontera la Brésilienne Adad Maia, qui n'est pas une joueuse que j'imagine que vous connaissez beaucoup, non. Messieurs. Là. Alors, c'est une excellente nouvelle, un deuxième tour plus facile. Au troisième tour, ça risque d'être un peu plus compliqué, parce que là, on a la numéro un mondiale incontestée, Iga Swiatek, mais c'est quand même intéressant de voir... que Leila va pouvoir potentiellement avancer dans ce tournoi-là.
Ouais, puis tu sais, en même temps, Swiatek, autant on l'aime, autant on l'adore. Oui, elle a gagné à Miami, Indian Wells, mais ça reste que sa grande puissance, c'est sur la terre battue. Oui. C'est la meilleure joueuse au monde. Elle est bonne sur toutes les surfaces. Mais lorsque des joueuses qui ont excellé, comme Leila, comme Bianca, sur dur, qui ont gagné sur dur, qui ont fait des finales Grand Chelem et des victoires Grand Chelem sur dur, on ne peut pas non plus les tasser du revers de la main. Ce serait trop malsain de notre part. Et oui, Swiatek, elle est dominante, mais nos Canadiennes ne sont pas piquées des verres non plus. Il faut le rappeler. Ça.
Oui. Et Swiatek a perdu quelques matchs. Si jamais Leila se rend à Swiatek, elle a quand même quelques cracks dans son armure, Swiatek. Une certaine Caroline Garcia qui a perdu hier contre Alizé Cornet en passant dans un duel tout français. Qui sait si Leila ne peut pas surprendre Swiatek. Encore une fois, moi, je crois tellement aux capacités mentales et tactiques de Leila que je suis dans un nouvel état d'esprit ce matin là, face à son potentiel pour le tournoi.
En tout cas, intéressant. Il faudra gagner le match contre la Brésilienne d'abord, mais c'est quand même déjà une bonne nouvelle qu'elle bouge bien sur le terrain, qu'elle te rassure d'un point de vue de son langage corporel. Oui. C'est déjà une bonne nouvelle. Hugues, je veux qu'on continue avec toi parce que ce matin, tu as eu la chance de rencontrer un grand bâtisseur du tennis, un grand bâtisseur du sport, point, à Montréal, Richard Legendre. On va vous diffuser un extrait d'une dizaine de minutes, mais Hugues, parlons un peu de c'était quoi le vibe de cette entrevue-là et de quoi vous avez parlé.
Déjà, je rappelle que Richard et moi, on a été collègues à l'Impact de Montréal, CF Montréal maintenant. On a vécu des années palpitantes ensemble en 2015, 2016, 2017. Quelqu'un que je respecte énormément, un des grands bâtisseurs du sport au Québec, ancien ministre des Sports dans le gouvernement Marois. C'est le seul homme au Québec qui a bâti deux stades, les gars. Vous réalisez quand même, là, le stade Saputo, c'est lui qui a fait la transition pour le premier stade et le deuxième stade vers la MLS avec les standards MLS. Et c'est lui, en tant qu'ancien directeur du tournoi de tennis de Montréal, qui a amené le stade de baseball, qui était un bricolage de cours central pour le tennis international, pour en faire un des plus beaux centrales du monde qu'on connaît et qu'on aime beaucoup aujourd'hui. Donc, Richard, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour le sport au Québec et c'est un plaisir de le rencontrer aujourd'hui.
Alors, ben voilà, voici un extrait de près d'une dizaine de minutes. L'entrevue intégrale sera disponible sur toutes nos plateformes et on va la diffuser aussi intégralement en version audio sur le podcast. Alors, une dizaine de minutes avec Hugues Léger et Richard Lejean.
Aujourd'hui, on reçoit sur la ligne dans le studio Mazda des Sources de la Rue Richard Lejean, grand bâtisseur du tennis québécois et canadien. Bienvenue avec nous.
Bonjour Hugues. Salut. Un plaisir de te retrouver.
Pareillement, on se connaît un petit peu. On a vécu des années palpitantes à l'Impact, au CF Montréal maintenant, toi et moi. Donc, je suis content de passer avec toi ce matin. C'était un plaisir, quand je t'ai entendu commenter le tirage du tableau vendredi dernier, de t'entendre parler de tennis. Ça semble un élément naturel pour toi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Comment tu te sens d'être de retour dans la chaise du commentateur de tennis?
C'est gentil, mais c'est un plaisir surtout pour moi. je dois avouer parce que effectivement, même si je ne me suis pas trop éloigné du tournoi, le temps a passé. Ça fait déjà 21 ans que j'ai quitté l'organisation de Tennis Canada. Alors, c'est énorme. Il faut que j'y repense à chaque fois pour me dire que c'est... Il faut que je recalcule à chaque fois pour me dire que ça fait bien 21 ans. Mais je suis toujours resté proche. Sauf que cette semaine, avec mon implication avec TVA Sport, c'était un peu pour moi comme un retour, à la maison, quasiment un retour au jeu parce qu'il y a une fébrilité. Bon, évidemment, encore proche de l'organisation, notamment de mon bon ami Eugène Lapierre, directeur du tournoi. Alors, j'ai encore certains réflexes de directeur du tournoi. Par exemple, pardon, le vendredi matin, quand j'ai vu Nadal qui ne se présentait pas, quoi que je m'y attendais, je me disais « Ah, ça fait mal ». Quand j'ai vu la pluie hier, « Ah, ça fait mal ». Donc, j'ai encore des réactions, des ressentiments de directeur de tournoi. Alors, bien que le temps a beaucoup passé, je me sens encore très, très proche.
Oui, oui. Ça semble être ton élément naturel. Moi, je t'ai trouvé rayonnant en ondes. C'était vraiment le fun.
Merci.
On parle au grand bâtisseur aujourd'hui, évidemment. Je faisais mes recherches ce matin, puis je me dis « Richard est peut-être le seul Québécois à avoir participé à la construction de deux stades. Donc, c'est quand même incroyable comme accomplissement. Parle-nous un peu des plus grands enjeux que tu as vécu, tant pour le stade qui a dû être transformé d'un stade de baseball à un stade de tennis avec des moyens assez limités quand même comparé à d'autres marchés. Et la même chose au niveau du stade Saputo. Alors, comment tu as réussi et
ben, pourquoi tu as fait face? D'abord, je me sens privilégié d'avoir pu justement être au cœur de ces deux projets-là. Puis l'un va avec l'autre. Hein. Quand moi, je suis arrivé à l'Impact de Montréal, je reviendrai au stade qu'on appelait Jarry pendant de nombreuses années. Mais justement, moi, quand je suis arrivé à l'Impact de Montréal, Joey Saputo ne me recrutait pas pour mes connaissances en soccer. Parce que je n'étais pas un gars de soccer, je ne connaissais pas le soccer, mais j'avais participé justement à la réalisation du stade ici, du stade IGA maintenant. Et Joey Saputo commençait à construire le stade Saputo et je cherchais quelqu'un pour piloter le projet. Alors, l'un a amené l'autre pour moi d'une certaine manière. Puis oui, je me trouve très, très privilégié parce que c'est et le tennis d'un côté et le soccer de l'autre qui les deux, au cours là, des 30 dernières années, ont connu des progressions phénoménales. Il ne faut pas le perdre de vue. Là, ça. C'est encore tout jeune, ça. Je le disais souvent lorsque j'étais à l'Impact. L'Impact est tout jeune, même en comparaison avec les Alouettes, en comparaison encore plus avec le Canadien de Montréal. Puis le tennis, écoutez, est quand même encore assez jeune, parce que le tennis à Montréal, environ 40 ans. Le premier tournoi ici a été en 1980. Alors, 40 ans dans l'histoire, c'est plutôt, dans la vie aussi, c'est plutôt court et c'est plutôt plutôt jeune. Alors, et dans les deux cas, Hugues, je dois avouer que, et ça m'a un peu rassuré parce que je me demandais est-ce que ce que j'ai vécu en tennis est exportable en soccer, bien que c'est deux sports complètement différents, et notamment pour la construction d'un stade, la réponse est oui, parce que c'est les mêmes enjeux.
Les parties prenantes, les gouvernements, les autorités.
Exactement, le même enjeu pour le financement, Même enjeu pour les échéanciers, même enjeu pour le budget, puis même enjeu aussi pour, malgré les contraintes budgétaires, puis malgré les contraintes d'échéanciers que tu as toujours dans des cas comme ça, la première préoccupation, c'est qu'au bout du compte, quand les gens rentrent dans le stade, qu'ils fassent « wow », qu'ils disent « wow, c'est bien ça ici ». Et ce qui nous avait beaucoup, beaucoup aidé avec le stade IGA, c'est que la façon dont on l'avait positionné au tout, tout début, quand on a commencé ça en 1989, soit dit en passant, ça a pris 6 ans. Entre le moment où on commence, là, en 1989, à faire une première étude d'opportunité, parce qu'on ne savait pas par où commencer, on a commencé par une étude d'opportunité, mais ça a pris 6 ans parce que ça a pris 6 gouvernements. Chaque fois qu'on en convainc à un, il y avait une élection, le gouvernement changeait, puis alors municipal, provincial et fédéral à chaque fois. Mais justement, alors, quand on a commencé, on a beaucoup parlé de rénovation du stade. Et ça, ça a bien passé parce que ça, c'est au début des années 90, parler de la construction d'un nouveau stade à Montréal.
C'est un sujet sensible.
Disons que sur les lignes ouvertes d'affaires publiques, c'était pas gagnant-gagnant. C'était pas si facile que ça. Mais là, on parlait d'une rénovation parce que la section où on est, d'ailleurs, à l'arrière là, du côté sud, donc le croissant, ben, il était là, ce croissant-là. C'est le même. C'est le même béton.
C'est les mêmes sièges.
C'est le même croissant que pour... le stade de baseball où les expos ont joué. Alors oui, c'était vrai que c'était une rénovation. Puis c'était une rénovation de 24 millions de dollars. Bon, là, les gens disaient, ben, c'est une grosse rénovation. Mais quand ils sont entrés ici pour la première fois en 1996, les attentes étaient quand même un peu basses. On avait réussi, je pense, à baisser les attentes. Et là, quand les gens sont rentrés, là, ils l'ont dit. « Wow, c'est vraiment quelque chose, c'est plus qu'une rénovation. » Mais ça, une fois que tu as réussi à obtenir l'argent public, de l'argent privé aussi, qui était venu compléter, après ça, ce que tu veux, les gens, ils s'en foutent un peu, honnêtement, du budget puis de l'échéancier. Quand ils entrent, ils veulent être séduits par le stade. Et c'est ça qui était arrivé à ce moment-là. Écoutez, le stade a quand même maintenant 26 ans.
Puis il vieillit bien. C'est un très beau central.
Moi, je trouve qu'il vieillit bien. Il y a toutes sortes d'améliorations, d'ailleurs, qui ont été apportées, notamment par Eugène Lapierre, au fil des années. De grosses améliorations qui ont été apportées. Je sais qu'il veut en apporter d'autres, mais la base même, une capacité de presque 12 000, l'intimité du stade. Puis, finalement, le fait qu'on a gardé la portion arrière, nous faisait sauver, je pense, quelque chose comme 3-4 millions quand même, sur 24, c'est important. Mais ça a donné aussi une forme qui est unique. Si vous voyez ce stade-là, du haut des airs ou quoi que ce soit, vous savez que c'est Montréal. Parce qu'une forme qui est à la fois un peu rectiligne, là, qui est carrée sur trois côtés et qui est en croissant sur l'autre, moi, j'en ai pas vu d'autre.
Alors, on est de retour en direct de l'Omnium Banc National. L'entrevue intégrale de Richard Legendre sera diffusée sur toutes nos plateformes. Vous allez pouvoir l'écouter en version audio. Hugues, je regarde le plan de la journée pour ce qui s'en vient à Montréal. Bon, entre en scène de Vacek Pospisil contre Tommy Paul, un adversaire pas évident pour Pospisil. Comment vois-tu ce match-up-là?
Tommy Paul, très bon joueur américain, je le dis souvent, il a une bonne saison, il a poussé Nadal à Acapulco plus tôt cette année. Vacek, pas au sommet, je vais surtout voir le double avec Vacek et Yannick Sinner. Et ça fait une paire vraiment intéressante, là. Je pense que Vacek a plus de chances d'avancer dans le tableau du double que le tableau du simple, donc je m'attends à ce que Tommy Paul remporte le match contre Vacek, mais Vacek va avoir un soutien de la foule comparable à celui de Denis parce qu'on l'aime beaucoup ici.
Entrée en scène d'Alexis Galarno ce matin, théoriquement, enfin, si on peut assécher les terrains, là, on regarde, on est en face du central, et puis si on peut assécher les terrains et commencer la journée, normalement, ce sera Pospisil contre Paul et Gallardo contre Dimitrov.
Gallardo, je vais en parler un petit peu, un de nos chouchous au podcast. Moi, je m'attends à un match qui pourrait surprendre de la part d'Alexis contre Grigor Dimitrov, un des meilleurs joueurs du circuit depuis les 10 dernières années, mais pas nécessairement au top où il était il y a 5-6 ans. Donc, je m'attends à un match quand même accroché de la part d'Alexis avec un soutien de la foule qui va être indéfectible. Donc, si vous pouvez suivre ce match-là, pour moi, c'est mon match popcorn de la journée, là, Alexis Gallardo, Grigor Dimitrov.
Est-ce qu'il va causer la surprise?
Si j'avais à parier, je ne suis pas un parieur, je le dis, je mettrais un 10$ sur Alexis Gallardo aujourd'hui parce que les odds vont tellement être contre lui que ça serait un moyen de faire un bon coup d'argent. Je ne le ferai pas, mais je suis prêt à parier un 10 là, entre nous, ou en tout cas un bon café Nespresso, que Alexis pourrait gagner ce match-là aujourd'hui.
Ben, chose certaine, il va se battre. Je lui ai parlé un peu plus tôt cette semaine. Il me disait qu'il aimait jouer contre les revers à une main.
Voilà.
Alors ça pourrait
c'est un bon match-up. Bon match-up.
Peut-être plus serré que ce que les gens peuvent penser. Enfin, on va peut-être assister à tout un spectacle aujourd'hui. On espère qu'on ait beaucoup plus de matchs qu'on en ait eu hier, ça c'est certain. Aussi sur la centrale à Montréal, on va finir le match de Shapovalov après le match de Gallardo. On en a peut-être pour 10 minutes, on en a peut-être pour une heure, on ne sait pas. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission.
Les deux, trois premiers points seront clés.
Oui, effectivement, parce que après trois points, s'ils sont tous du même bord, celui de Deminor, on est à la balle de match.
Exact.
Alors, ça pourrait que ça ne soit pas long. Murray contre Fritz, Hugues, l'Américain qui a gagné Indian Wells versus la légende, qui n'a plus le niveau d'une légende, tu t'attends quoi?
Je m'attends à un genre de match un peu comme le match de Wawrinka hier. Donc, Andy Murray va s'accrocher, il va aller peut-être chercher un set, mais je pense que Taylor Fritz va remporter. 10e favori, Fritz. Andy Murray sur une wild card dans le tableau cette année. Bon, évidemment, le choix de cœur pour tout le monde sera Andy Murray aujourd'hui, mais je pense que Taylor Fritz va être au-dessus, il va gagner en 3-7.
Et dernier match à noter ici, on a un match de deuxième tour aujourd'hui, Hugues, entre Hubert Hurkacz et Rusu Bori. Ça va être intéressant de voir ça. Et tu me pointes aussi que Nick Kyrgios contre Baez, moi, il ne m'intéresse pas tant que ça, ce match-là, parce que Baez, pour moi, à mon sens, ce n'est pas un adversaire intéressant, mais ça vaut toujours la peine de faire le détour.
Il faut en parler. Oui, il faut en parler parce que Kyrgios est quand même la star du circuit en ce moment. Là, il sort d'une victoire à Washington en simple et en double, finaliste à Wimbledon, gagnant du double à Atlanta une semaine avant. L'entrée en scène de Kyrgios aujourd'hui va faire parler beaucoup. Donc, on va regarder le match. Moi aussi, je pense qu'il va passer à travers son premier tour contre Sébastien Baez assez facilement. Mais c'est quand même un fait notable de la journée, là, Nick Kyrgios qui commence. Et oui, on termine la journée. Si tout se passe bien, le court est presque sec maintenant. Donc, on est bien parti pour commencer à l'heure prévue ce matin. Donc, dès 11h. Donc, Rusu Bori contre Hurkacz. Hurkacz qui aime bien les surfaces dures. Donc, ça devrait être un bon match parce que Rusu Bori, on l'a vu hier, il a très bien joué. Contre Wawrinka, mais Hurkacz devrait être le gagnant de ce match de fin de journée aujourd'hui.
Intéressant. Alors, on aurait déjà un match gagné au troisième tour. À Toronto, Hugues, entrée en scène également de Rebecca Marino contre Zhang. Rebecca Marino connaît quand même de bons moments ces temps-ci, cette saison, je dirais. Puis, ben, écoute, quoi de mieux que de jouer à la maison?
Encore une fois, le facteur full est de jouer devant les siens. Marino qui a un très bon été, qui remonte solidement dans le top 100. Victoire récente contre Venus Williams et pourquoi pas une Rebecca qui sera vainqueur au premier tour aujourd'hui. On lui souhaite, on aime beaucoup Rebecca Marino.
Bon, match intéressant aussi à suivre entre Camilla Giorgi et Emma Raducanu. La championne en titre contre la championne avec un point d'interrogation.
Le match, oui, très bien dit, Alex. Donc, Emma Raducanu, qui n'a pas confirmé dans les derniers mois sa victoire au US Open l'an passé, il faut le dire. Elle a perdu, je crois, dans ses 16 tournois, et je ne suis pas certain si c'est 15 ou 16, là, mais 13 fois contre des joueurs moins bien classés qu'elle. Donc, ça, c'est très révélateur. Oui, il faut être patient. Oui, elle n'a que 19 ans. Mais on attend quand même de la 9e mondiale ou de la 9e favorite du tableau qu'elle confirme ce qu'elle a fait au US Open. Donc, on verra. Camilla Giorgi, championne en titre. C'est mon match popcorn à Toronto aujourd'hui, ce premier tour.
C'est certainement un match intriguant. Parce que, bon, Raducanu, comme on dit, a eu de la difficulté à justifier son statut de championne de Grand Chelem. Autre match intéressant, autre match avec un point d'interrogation aujourd'hui à Toronto, celui de Naomi Osaka contre Kaia Kanepi. Kaia Kanepi vient de faire un excellent tournoi et Naomi Osaka, on ne sait pas trop dans quel état elle va se pointer. Ce n'est pas clair son niveau de jeu. Elle a bien fait contre Coco Gauff la semaine passée. Mais dans une
défaite... a perdu quand même. Mais on voit ce qui est le gros changement de Naomi en ce moment, c'est son état d'esprit. Elle semble beaucoup plus relaxe, souriante, c'est moins lourd pour elle tout ce qui se passe autour du tennis. Donc, on verra ce qui va arriver. Encore une fois, c'est difficile de mettre une gagnante sur ce match-là. Je souhaite que Osaka performe bien. Elle aime bien les surfaces dures aussi. Donc, on va regarder ça avec attention aujourd'hui, mais très, très difficile de faire une prédiction.
Tu as parlé qu'il y a un match de deuxième tour qui va se dérouler du côté des hommes. Ça sera le cas aussi du côté des femmes. Et tout un en passant, ce sera Sakkari contre Stevens aussi.
Oui, ben on a Sakkari, Stevens. Moi, j'ai mis Sakkari dans mon pool comme gagnante du tournoi.
Ah oui?
Oui. Donc, Sakkari, troisième favorite du tableau, qui aime bien, qui a une forme physique exceptionnelle. Si la température recommence à monter, comme on a connu ce week-end, je pense que Sakkari pourrait nous surprendre. Donc, moi, je mets Sakkari gagnante contre Sloane Stevens aujourd'hui. Et on a une autre Canadienne qu'on attend avec impatience aujourd'hui.
Bianca Andreescu, mais je la gardais pour la fin, pour le dessert, mais allons-y tout de suite puisqu'on y est. Contre Kazatkina, ça ne sera pas simple. La championne du tournoi précédent va arriver contre Andreescu. J'ai parlé à Mike McIntyre hier qui était à Toronto. Disait qu'elle semblait, en tout cas, à tout le moins enthousiaste.
Oui.
Maintenant, sur le terrain, on verra parce que son dernier match, on l'a dit depuis le début de la semaine, n'a pas été rassurant. Tu t'attends à quoi?
Je parlais hier de la Russian Revenge après Wimbledon avec Medvedev qui remporte Los Cabos et Kazatkina qui gagne aussi la semaine dernière. Kazatkina arrive en très grande forme. Bianca Andreescu, on ne sait pas trop dans quel état physique elle est. Ça va être un bon match parce que Bianca adore jouer ici, évidemment, au Canada et elle va vouloir tout donner. Mais je pense que Kazatkina devrait être un petit peu au-dessus là, dans cette série pré-US Open. Mais encore une fois, je suis intrigué par ce match-là. J'ai hâte de le regarder.
L'as-tu fait perdre au premier tour?
Oui.
Moi aussi.
J'ai mis Kazatkina gagnante au premier tour.
Est-ce que tu penses quand même... Est-ce que tu tomberas en bas de ta chaise qu'elle passe le premier tour malgré tout?
Non, parce que comme Leila, c'est une battante, Bianca Andreescu, c'est une fille de grands moments, de grands stages, de grandes scènes. Et c'est la plus grande scène au Canada où elle va jouer aujourd'hui. Donc, je pense qu'elle peut nous surprendre et je le souhaite.
Carole Jaou aussi va faire son entrée en scène aujourd'hui, la Canadienne contre Anisimova. On verra qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr qu'Anisimova part grande favorite dans ce match-là.
Oui, effectivement. Donc, pour Carole, c'est une wild card. Donc, invitation, laissez passer des organisateurs, pleinement méritée en passant. Joueuse importante de notre équipe de Billie Jean King Cup. Donc, joueuse de double habituellement. Mais je pense que ça va être une trop grosse commande Anisimova aujourd'hui pour Carole Jaou.
Autre élément que moi, je suis du coin de l'œil, c'est Leila Annie Fernandez qui va jouer en double avec sa sœur. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas trop rapidement? Non, tu penses que c'est une
bonne nouvelle? Non, elle a besoin de match, Leila. Elle n'a pas joué en sa situation de compétition depuis Roland-Garros, depuis les quarts de finale. Donc, je pense que, un, c'est le fun de les voir ensemble. Cette paire de sœurs avec sa sœur Bianca qui progresse aussi au classement. Donc, c'est vraiment le fun de les voir ensemble. Mais Leila a besoin de match. On sait que le double travaille d'autres éléments technique et tactique. Elle va travailler ses volées, ses déplacements vers le filet. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'elle fasse le double.
Hugues, je te remercie infiniment pour ce bloc aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on va utiliser l'entrevue intégrale de Richard Legendre sur toutes nos plateformes. Je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Là,
c'était une bonne discussion. Un grand Québécois, point, pas juste au niveau du sport, mais il a contribué beaucoup au niveau économique et au niveau du rayonnement de la province. Donc, c'est bravo encore Richard Legendre.
Merci beaucoup. Bye bye.
Merci les gars.